France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour conclure cette semaine dans le Maine-et-Loire, c'est encore une histoire de reconversion professionnelle qui a guidé Marion vers la création de sa petite entreprise des Extraordinaires à Chalonnes-sur-Loire, une marque d'emballage alimentaire éco-responsable. Nous prendrons une autre ouverture dans le deuxième temps avec l'association Terre et Humanisme qui, depuis son siège ardéchois, prône une agriculture agro-écologique en France et à l'international. Cet organisme essaime actuellement des jardins urbains et solidaires à l'adresse des personnes en situation d'exclusion. Nous présenterons ce programme avec Élodie Legal.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Marion Dewar, bonjour.
Bonjour Philippe, merci de votre invitation.
Les extras tradeunionordinaire.fr, vous allez découvrir donc les réalisations de Marion. Alors, c'est un drôle d'angle que vous avez choisi, mais qui correspond à une réalité. Plus de 12 millions de personnes sortent chaque jour d'une boulangerie et très peu ont un sac à pain réutilisable. Je vais même ajouter, Marion, j'en vois très peu avec un sac.
Oui. Alors en fait, voilà, moi je suis partie de ce constat très simple. Déjà, les Français et le pain, c'est quand même une histoire d'amour. C'est carrément complètement ancré dans notre culture. Moi-même, j'adore le pain. On est d'ailleurs tellement fiers de notre pain qu'en ce moment, la baguette, elle est candidate là pour être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Bref, et en effet, moi je connaissais pas le chiffre, mais on est 12 millions voilà à sortir chaque jour d'une boulangerie. Et c'est vrai que moi je me suis même postée à la sortie de plusieurs boulangeries pour confirmer mon intuition. Et on est très peu à avoir un sac réutilisable. C'est vrai que c'est facile en fait de prendre les papiers, les cartons, voire les plastiques que nous donnent les vendeurs et vendeuses en boulangerie. Voilà, on n'y pense pas trop, c'est un geste comme ça anodin du quotidien. Et en fait, au final, ça fait quand même beaucoup d'emballages jetés à la poubelle ou au recyclage chaque année. Voilà, quand on est des gros consommateurs de pain. Oui. Donc moi, je me suis dit, ça serait bien de lancer un sac à pain. Qui soit à la fois un objet utile car réutilisable et zéro déchet, qui soit aussi un bel objet du quotidien, qu'on ait envie, en fait, qu'on ait autant plaisir, enfin que le plaisir qu'on a à aller chercher notre pain, il soit décuplé par le fait d'y aller avec en plus un beau sac à pain réutilisable.
Oui. C'est quand même un angle, je me répète, assez particulier, sans faire de, j'allais dire une miche, mais c'est une niche commerciale que vous ouvrez, parce que c'est quand même un secteur parmi d'autres, des sacs réutilisables. Est-ce que vous envisagez d'autres développements?
Oui, alors c'est vrai que c'est une niche. En fait, moi, je suis très sensible d'un point de vue personnel au zéro déchet. Donc, dans ma vie de tous les jours, j'essaie petit à petit, voilà, d'adopter des gestes plus zéro déchet avec le vrac, avec le fait maison, en transformant des petites pratiques comme ça au fur et à mesure, comme on peut. Et en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, et tant mieux, en termes d'objets zéro déchet. Et du coup, moi, en me lançant dans l'aventure du zéro déchet, je me suis dit, c'est quoi finalement les gestes qu'on n'a pas encore vraiment transformés d'un point de vue écologique, les choses qui n'existent pas tant que ça. Alors, je suis loin d'avoir inventé le sac à pain, le sac à pain, il existait avant moi, mais c'est vrai que comme peu de gens l'utilisent, je me suis dit, il y a peut-être un objet à faire qui donnerait vraiment envie de passer à l'acte du sac à pain réutilisable. Après, l'idée, en effet, c'est de développer d'autres objets zéro déchet, donc notamment autour du lin, on en reparlera, qui est la matière qu'on utilise pour nos sacs à pain, toujours en essayant d'aller chercher des idées de choses où on n'a pas encore vraiment changé nos manières de faire.
Le lin, c'est quand même la grande production de votre région natale, de la Normandie. Je ne sais pas si vos parents font du lin. Mais alors, le Maine-et-Loire a aussi sa tradition industrielle textile.
Oui, exactement. Ouais. Alors ça, moi, je l'ai découvert en Anjou, que l'Anjou était aussi lié à l'histoire du lin. C'est vrai que le Maine-et-Loire, c'est un bassin industriel textile historique. On connaît beaucoup le nord de la France et on pense moins souvent à l'Anjou. Mais en fait, la culture du lin et du chanvre, elle était florissante il y a quelques siècles. Et notamment, on connaît le mouchoir de Cholet qui est très connu. Voilà, les toiles et les mouchoirs, ils ont connu un gros succès au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, dans le Maine-et-Loire et en particulier dans le bassin Choleté, il y a encore un savoir-faire de haut niveau dans tout ce qui est prêt-à-porter et confection.
Alors vous utilisez du lin naturel bio qui est cousu à l'atelier de l'ESAT à Vrier.
Oui, du coup en effet, au niveau de notre ancrage local, on travaille avec un atelier qui est situé près d'Angers, donc à Vrier. C'est un atelier de couture ESAT. Il y a une équipe d'une dizaine de couturiers et couturières qui travaillent dans cet atelier. Et alors, ça a été vraiment un des gros points positifs de notre année de lancement que de les rencontrer, parce que c'est un peu un hasard des rencontres. et ils ont à la fois un savoir-faire de qualité dans la couture et nous on est super contents de travailler avec eux parce que bah ils font un super travail. Et eux sont aussi très fiers de coudre les sacs à pain parce qu'en fait ce sont des produits quand même assez élaborés qui demandent une vraie technique de couture. Et le fait de réaliser le produit de A à Z, de la coupe à la confection, au repassage final, enfin voilà, d'avoir vraiment toute la partie de confection faite dans l'atelier, bah c'est vraiment intéressant pour eux aussi, voilà.
À l'ESAT s'ajoute une entreprise du patrimoine vivant, la société Scholtez de fabrication pour les bandoulières et cordons, et la broderie du logo à quelques kilomètres de Nantes. Et vous avez adhéré donc au mouvement 1% pour la planète, vous aussi.
Oui. Tout à fait. Donc, pour revenir juste sur l'entreprise du patrimoine vivant, la société Scholtez de fabrication, voilà, c'est un des grands acteurs du textile en Maine-et-Loire. Donc, un de nos sacs à pain, c'est le Baroudeur. C'est un des sacs à pain qui plaît le plus parce qu'en fait, il a une bandoulière en lin réglable qu'on peut fixer dans le dos. Pour répondre, oui, sur le collectif 1% pour la planète, c'est aussi une autre manière de s'engager au-delà de notre produit qui est zéro déchet en tant que tel. Et l'idée, c'est de reverser 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui agissent concrètement sur le terrain.
Le site, c'est les extras tradeunionordinaire.fr. Merci Marion.
Je vous en prie, merci à vous. À bientôt Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Nous avons reçu des nouvelles, de bonnes nouvelles pour ne pas changer, d'une association culturelle que nous avions présentée il y a 2 ans dans les carnets. Il s'agit de Jaspire, qui fête ses 20 ans d'activisme culturel à Saint-Jean-de-Bournay en Isère. Jaspire pour jeunesse, animation, spectacle, pour investir la rue. L'association est née de 10 jeunes de la commune désireux de proposer une offre artistique nouvelle et culturelle. Cela se résumait à l'organisation de quelques concerts dans l'année. C'était en 2002, mais 2 ans plus tard, le petit collectif va remporter le concours MSA Projet Jeune en milieu rural et va se retrouver propulsé pôle socio-culturel. En 2006, l'association passe à la production d'artistes avec Jaspire Prod. Elle ouvre en 2013 La Fabrique, un lieu de création avec le soutien de l'Europe. S'en suivra la création d'un centre de formation professionnelle. Comme il est encore parfois mal entendu que la culture peut être un vecteur économique des territoires, Jaspire nous rappelle à l'ordre. Elle emploie 20 personnes à plein temps et près de 50 personnes en équivalent temps plein lors des grands événements qu'elle organise. Elle a assuré en tout et pour tout jusqu'à présent 450 formations, produit plus de 100 spectacles et elle s'autofinance à 80%. À l'occasion de ses 20 ans, Jaspire organise le Zéphyr Festival, une bulle artistique éphémère de 3 jours à Saint-Jean-de-Bournay, toujours en Isère, du 20 au 22 mai, dont une nuit du groove, une soirée concert. Le vendredi 20 mai, comme je suis curieux comme pas deux, je suis allé visiter le site de l'association pour écouter les artistes qu'elle produit et je suis tombé sur Leila Wissoud, jeune interprète de 25 ans, récompensée par l'Académie Charles-Cros en 2019 et a priori passagère en 2014 de The Voice. Je dis a priori parce que je regarde pas cette émission. Je reconnais que ce petit bout de femme, comme elle se présente elle-même, fait des merveilles dans un registre qui oscille entre Vanessa Paradis dans un répertoire posé et Edith Piaf lorsqu'elle va chercher les paroles au fond de la gorge. Je vous conseille d'ailleurs sa chanson La Farce, qui est tout sauf une farce. Le site c'est prod.jaspire.com. Élodie Le Gall, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez en charge le pôle Solidarité France Terre et Humanisme. Terre et Humanisme qui a publié récemment un baromètre de l'agroécologie. C'est le premier baromètre du genre agroécologie permaculture. Je suis très étonné parce qu'on apprend que 87% des Français estiment que l'agroécologie est une solution au modèle agricole actuel, mais la moitié des Français ignorent ce qu'est l'agroécologie. Ça paraît contradictoire.
Et oui, et la plupart des personnes interrogées souhaitent justement en savoir plus au niveau pratique et théorique pour le mettre en œuvre également dans leur jardin.
On parle de relocalisation depuis un bon moment de l'alimentation et de la production alimentaire. C'est ce que vous faites en essaimant des jardins, mais alors des jardins urbains et solidaires qui peuvent devenir des jardins thérapeutiques également.
Tout à fait. En fait, on a démarré un petit projet pilote il y a quelques années à Montpellier, à la demande d'une pension de famille pour travailler sur l'alimentation et l'autonomie alimentaire dans la structure qui accueillait des personnes en situation de précarité. Et effectivement, au bout de quelques saisons, on s'est aperçu que le jardin avait, au-delà d'une vocation nourricière, une un fort intérêt pour redonner du pouvoir d'agir aux personnes et confiance en elles et éventuellement découvrir des passions, susciter des vocations. Donc effectivement, on a ouvert un volet très intéressant du potentiel du jardin agroécologique vivrier.
L'exemple que vous donnez de Montpellier, Elodie, a été réalisé en partenariat avec Habitat et Humanisme Hérault et ça se développe puisqu'il y a depuis décembre 2017, deux autres jardins qui ont vu le jour à Montpellier.
Oui, à Montpellier, il y a une structure très intéressante qui s'appelle La Boussole et qui fédère plusieurs associations qui accueillent des personnes en situation de grande précarité. Au sein de cette structure, il y a deux CADA, deux centres d'accueil de demandeurs d'asile qui sont venus rencontrer des personnes de la Villa Savine, donc de la structure d'Habitat et Humanisme, et qui ont été enthousiasmés par le projet et la dynamique, et chez qui on a mis en place également un aménagement de l'espace extérieur pour permettre aux personnes d'avoir accès à des parcelles et de cultiver leurs légumes.
Comment développer, parce que c'est votre but avec la fédération d'Habitat et Humanisme, comment développer ce principe à une échelle nationale? Quelle est la méthodologie?
Et oui, bah effectivement, à partir de ces projets pilotes territoriaux, on a beaucoup échangé avec les participants et les habitants du quartier pour recueillir les ingrédients nécessaires à la réussite. Et on s'est rapproché du mouvement national de la Fédération Habitat Humanisme, qui fédère, comme vous l'avez dit, plusieurs structures d'accueil de personnes en situation de fragilité dans divers endroits. Donc on a mobilisé et rassemblé nos forces. On fait appel en fait à des animateurs en agroécologie qui sont formés par Terre et Humanisme. Donc c'est des formations professionnalisantes. On accueille des promos de 10 à 15 personnes par an. Des personnes qui ont une bonne pratique et théorie de l'agroécologie. Et c'est une formation sur les outils de transmission. Et tous ces animateurs, donc on en a près de 200 aujourd'hui, sont maillés sur tout le territoire au niveau français. On essaye de faire se rencontrer les structures du mouvement Habitat Humanisme avec ces animateurs qu'on mobilise pour, dans un premier temps, faire un diagnostic participatif en s'appuyant sur les envies et les besoins des personnes qui sont hébergées pour que le projet puisse correspondre à leurs envies. Donc on fait un diagnostic participatif et partagé et sur la base du constat collectif, on démarre des ateliers réguliers où un animateur en agroécologie vient au fil de la saison animer des ateliers pour petit à petit transmettre les bases techniques et théoriques de l'agroécologie aux personnes qui petit à petit prennent la main sur les responsabilités et l'organisation des différentes activités au jardin pour devenir autonomes. On estime aujourd'hui qu'il y a un potentiel d'une centaine de porteurs de projets pour 1000 hectares à végétaliser.
Le baromètre à découvrir, c'est pour le site, c'est terre-humanisme.org et vous aurez toutes les données et en particulier donc cet appétit majoritaire des Français à un apprentissage ou une formation pour créer son potager. Il y a beaucoup d'informations à suivre, donc aussi ce développement des jardins urbains et solidaires. Merci Elodie.
Merci à vous, je vous remercie.
Jean-Michel nous fait revenir dans le Maine-et-Loire en nous proposant les services de l'association Les Locomoteurs, créée en 2015. Elle agit contre tout phénomène de non-recours à l'offre publique. Le non-recours désigne la difficulté rencontrée par des familles pour accéder à des dispositifs publics destinés à répondre à des besoins pour améliorer leur vie quotidienne. Les ménages, en effet, hésitent à se manifester et parfois se détournent de ces services. C'est à cet endroit qu'interviennent les locomoteurs qui sont des habitants relais chargés d'aller à la rencontre d'autres habitants, par exemple pour accéder à des aides sur l'habitat ou à l'accompagnement technique afin de sortir de la précarité énergétique. Plus globalement, le premier objectif est d'aller à la rencontre des ménages afin de créer un temps d'échange et de confiance et d'encourager chacun à utiliser ce dispositif public. C'est une démarche assez rare en France qui méritait d'être citée. Le site, c'est locomoteur.fr. Avant de nous séparer, nous sommes toujours preneurs d'informations et d'initiatives en provenance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Meurthe-et-Moselle. Merci à Joël Levert, merci à Emma Ferré, merci à Pierre-Yves de Rolin.